France Inter.
Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, retour sur l'un des scandales les plus retentissants de l'histoire britannique, l'affaire Jimmy Savile. Il était considéré comme un trésor national. Anobli par la reine, adoubé par le pape, acclamé par tout un pays, Sir Jimmy Savile fut pendant près de 4 décennies le présentateur star de la BBC, suivi chaque semaine par plus de 20 millions de téléspectateurs. Véritable icône des 60s, il symbolisait avant tout ce type attachant, capable de lever des millions pour les plus démunis et d'exaucer les rêves de centaines d'enfants à la télé. Il avait même hérité d'un surnom, Saint Jimmy. Il aura fallu attendre sa mort, en 2011, pour découvrir son vrai visage. Car en réalité, Savile était un pédocriminel, intouchable, manipulateur et dit-on nécrophile, bénéficiant d'une immunité pendant plus de 50 ans. Notre invitée aujourd'hui, Sonia Dolsal-Stolper, chef du service international au journal Libération, donc journaliste, correspondante à Londres de 1996 à 2020, elle a couvert cette affaire Savile. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct. Récit documentaire, Raphaël Pueyo, rédaction en chef Franck Cognard, chargé de programme Rebecca Donnante, réalisation Étienne Bertin.
Fabrice Drouel, Affaires Sensibles, sur France Inter.
Scarborough, comité de Warshire, dans le nord de l'Angleterre. Il est minuit ce mercredi 10 octobre 2012, quand un corbillard s'engouffre discrètement dans le cimetière de Woodlands Hills, situé sur les hauteurs de la ville. Au volant, Robert Morfett, le directeur des pompes funèbres, accompagné de ses fidèles assistants, tous vêtus de noir comme il se doit. Le maire leur a confié une mission de la plus haute importance, faire disparaître un mémorial funéraire à l'abri des regards. Sur une colline verdoyante, balayée par les vents de la mer du Nord, trônent des centaines de stèles. L'une d'entre elles domine toutes les autres. Elle fait même la fierté de Robert Morfett. Pendant 8 mois, il a travaillé d'arrache-pied avec ses équipes pour tailler les 1400 lettres dorées qui composent l'épitaphe et qui commencent par ces mots. Ici repose Sir Jimmy Savile, philanthrope, présentateur télé, DJ, marathonien, cycliste, catcheur, grand bienfaiteur de l'hôpital de Stoke Mandeville, de Leeds et bien d'autres. Une sorte de panthéon. Armés de pioches et de lampes torches, les fossoyeurs s'attaquent alors à la stèle. Il leur faudra plus de 2 heures pour venir à bout des 3 tonnes de roches. Une fois le monument démantelé et les inscriptions effacées, les dalles de granit sont enfouies dans une décharge en bordure de la ville. Une scène digne des Sopranos. Le lendemain, au petit matin, journalistes et photographes débarquent.
Discrètement, au cœur de la nuit, la stèle de Jimmy Savile a été démantelée et retirée. À part quelques fleurs, il repose désormais dans une tombe anonyme. Il était devenu impossible de maintenir ce mémorial alors qu'il est désormais décrit par la police comme un dangereux prédateur sexuel.
Ça ne semblait tout simplement plus approprié. La famille de Jimmy Savile avait peur que sa tombe soit vandalisée. Cela aurait affecté les autres personnes qui reposent dans le cimetière et leurs proches.
Un an plus tôt, Sir Jimmy Savile avait eu droit à des funérailles nationales dignes d'un chef d'État. Pendant 3 jours, des milliers de Britanniques étaient venus se recueillir devant son cercueil, exposé tel un saint dans sa ville natale de Leeds. Mais en ce mois d'octobre 2012, le pays vomit son héros déchu, accusé d'agression sexuelle, de viol et même d'actes de nécrophilie. Pour bien saisir l'ampleur du scandale, il faut d'abord comprendre ce que représentait Jimmy Savile pour les Britanniques. Alors remontons le temps, direction les années 60.
Mesdames et messieurs, je vous présente Londres, le Swinging London, comme on l'appelle ici, même si certains lui trouvent d'autres adjectifs. De jeunes rebelles ont pris le contrôle de la ville, ce qui ressemble plus à une invasion qu'à une révolution. Ils ont leur propre nouveau langage, original et étrange, c'est le moins qu'on puisse dire.
Au milieu des années 60, Londres est en pleine ébullition. Après des années de guerre et d'austérité, la capitale britannique devient l'emblème d'un vaste mouvement de libération de la jeunesse. Son nom, les Swinging Sixties. ses ambassadeurs, les Rolling Stones, les Kings et bien sûr, et avant tout, les rois de la scène pop, les Beatles. En décembre 64, cela fait plusieurs mois que le groupe originaire de Liverpool est numéro 1 des ventes. Il n'est pas rare que les Beatles alignent 3 de leurs morceaux aux 3 premières places de hit parade. Intouchables, stratosphériques. Alors, pour marquer le coup, leur manager, Brian Epstein, a l'idée d'organiser un concert un peu particulier au Hammersmith Theatre de Londres, le Beatles Christmas Show, un mélange très british entre opéra, mime et comédie musicale. Sur scène, Paul, John, George et Ringo enchaînent les sketchs. Fête de Noël oblige, ils se font poursuivre par l'abominable homme des neiges devant un public hilar.
Hello everybody, this is Paul, and I'd just like to thank you all for buying our records during the past year.
Dans les gradins, tout le monde se demande qui peut bien se cacher derrière ce Yeti en carton-pâte. Sommé de révéler son identité, le monstre s'exécute et soulève son masque, ce qui provoque l'hystérie du public, car les spectateurs n'en croient pas leurs yeux. C'est Jimmy Savile, le grand Manitou de Top of the Pops. Grâce à cette émission culte, Savile s'est fait un nom aux côtés des Beatles. Acclamé tel une rockstar à chacune de ses apparitions publiques, il se considère même comme l'un des leurs. Et il y a de quoi. Chaque jeudi soir, près de la moitié du pays se retrouve sur BBC One pour découvrir le hit parade de la semaine.
Yes, it's votre émission one, numéro 1, Top of the Pops. Un tonnerre d'applaudissements pour notre DJ de la semaine,
Jimmy Savile.
Salut, salut, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui? Voilà ce que je vous propose ce soir, mesdames et messieurs. Les meilleurs groupes, les meilleurs morceaux, la crème de la crème. Alors, que diriez-vous de commencer avec l'un des meilleurs groupes de rock du moment? Si ce n'est le meilleur, le seul et l'unique, mesdames et messieurs, les Rolling Stones. Et ils arrivent maintenant.
Alors, comment ce gamin de Yorkshire, qui manifestement préfère les Rolling Stones aux Beatles, comment, issu de la classe ouvrière du nord de l'Angleterre, est-il parvenu à se faire une place parmi le gratin londonien? Pour répondre à cette question, il faut sonder son destin. James Wilson Savile voit le jour à Leeds, en 1926, un soir d'Halloween. Petit dernier d'une famille de 7 enfants, fils de cheminots, il grandit dans un pays miné par la Grande Dépression, avec comme seule boussole, la foi catholique. Puis vient la guerre et son lot de désolation. En 1944, l'année de ses 18 ans, le jeune Jimmy s'enfonce un peu plus dans la longue nuit du XXe siècle. Le voilà, Bevin Boy, l'un de ses conscrits tirés au sort, envoyé de force dans les mines de charbon pour participer à l'effort de guerre. Ainsi, chaque jour, il passe des heures dans l'obscurité la plus totale, aux confins de la folie, avec pour seule lueur d'espoir sa lampe frontale. Ironie de l'histoire, c'est finalement une explosion qui viendra le sauver des griffes de la mine. Touché à la colonne vertébrale, il passe la fin de la guerre dans un lit d'hôpital, loin des coups de grisou et des coups de canon. Une fois remis sur pied, Jimmy Savile se retrouve face à un dilemme. Doit-il retourner au fond de la mine ou s'inventer une nouvelle vie ? Après avoir tenté sa chance en tant que cycliste professionnel, il grimpe sur le ring pour devenir catcheur. Mais c'est finalement dans le milieu de la musique qu'il fera carrière.
La grande question qu'on me pose, c'est quand est-ce que tout a commencé? Et tout a commencé il y a quelques années. Quand je me demandais ce que j'allais faire de ma vie. Et puis je me suis dit, pourquoi ne pas retourner le problème? Au lieu de chercher un truc à faire, je vais faire ce que j'aime, ce qui me convient, et voir s'il y a des jobs qui y correspondent. J'aime être dans la lumière, j'aime écouter des vinyles, j'aime la musique pop, et j'aime les filles.
Un soir, alors qu'il se trémousse dans un dance hall de Leeds, Savile a une idée. Pourquoi ne pas remplacer les musiciens par des vinyles? Avec ses 78 tours sous le bras, quelques enceintes et deux platines, il fait des essais dans une salle des fêtes du centre-ville. Oh, les débuts sont modestes. Mais grâce à sa fougue naturelle, il gagne la confiance des tenanciers locaux. Et rapidement, le succès est au rendez-vous. Il faut dire que dans ces années d'après-guerre, les Britanniques veulent oublier les bombes, les privations. Alors ces soirées d'un genre nouveau ont tout pour séduire la jeunesse flamboyante de Leeds. En l'espace de quelques années, le petit gamin chétif et solitaire devient un baron local, à la tête de plusieurs clubs branchés. Jimmy se sent aimé, respecté et surtout, il découvre une sensation qu'il n'avait jamais connue. Derrière ses platines, il réalise qu'il peut contrôler du bout des doigts une foule de 3000 personnes, transformées à ses pieds en pantins désarticulés. Perfusé tous les week-ends à cette sensation de toute puissance, il se met à rêver devenir le premier DJ du Royaume-Uni. Pour arriver à ses fins et pour se démarquer de ses concurrents, il crée son propre style, à contre-courant des carcans de l'époque. Survêtements de sport bariolés, lunettes rondes à la Lennon et cheveux jaunes à la Trump, bagues en or en évidence, et sans oublier ses fidèles cigares cubains, qu'il fume en toutes circonstances, comme un certain Winston Churchill, un look, une signature. Voilà, Saville tient son personnage de Dandy Bling Bling revisité à la sauce Mods. Il peut maintenant partir à la conquête de Londres et du show business.
Rien de mieux qu'un bon twist pour mettre tout le monde de bonne humeur pour la grande occasion. Ce soir, les Carl Allen Awards réunissent comme chaque année tout le gratin londonien. Voici le disc-jockey Jimmy Savile et le manager des Beatles, Brian Epstein. Et maintenant, la rencontre historique entre le duc d'Édimbourg et les Beatles, récompensée dans deux catégories, meilleur groupe et meilleur morceau pour She Loves You.
Au milieu des années 60, alors que la télévision se regarde encore en noir et blanc, la BBC planche sur un nouveau programme, non-code Top of the Pops. Jimmy Savile fait figure de candidat idéal. Élu plusieurs années de suite meilleur DJ du Royaume-Uni, il anime l'une des émissions les plus écoutées du pays, diffusée sur les ondes de Radio Luxembourg. Chaque soir, il rassemble jusqu'à 6 millions d'auditeurs. Il est même parvenu à rajeunir les audiences de la station. Alors il n'en faut pas plus pour convaincre les producteurs de la BBC.
Welcome to January the 1st, 1964. It's 6:34 p.m. and it's a program that you've never heard of before. It's called Top of the Pops.
Dès les premiers numéros de Top of the Pops, Savile excelle dans l'exercice télé avec ses airs de chapelier fou. Et au passage, il ringardise ses concurrents. Incapables de faire la transition entre la radio et la télé avec leur smoking de gala, leurs cheveux gominés et leur accent poche, tout droit sorti des beaux quartiers londoniens. Aux yeux du public, Jimmy représente tout l'inverse. C'est un homme du peuple, proche du peuple, avec ce côté excentrique qui fait le charme des stars britanniques. Mais ce qui séduit le plus, c'est son accent du Nord, synonyme d'authenticité au Royaume-Uni. D'autant qu'il n'essaie pas de le refouler, au contraire, il en fait sa marque de fabrique. Et nous voilà maintenant au début des années 70. Le glam rock déferle sur Londres. Top of the Pops cartonne et Jimmy Savile se retrouve propulsé par la BBC à la tête d'une dizaine d'émissions. Dans les journaux, on le compare même au roi Midas, capable de transformer tout ce qu'il touche en or. Alors quand il se met en tête de traverser le pays en courant pour récolter des fonds pour les hôpitaux, chaque village lui réserve un accueil digne de sa majesté. Jimmy Savile a même ses propres groupies.
Je vais d'abord signer cela, ensuite je vous prendrai les autres.
Tout le monde s'arrache Jimmy Savile. Il est le cousin, le frère de tout le monde. Il doit être gay, loufoque, notre Jim.
Oh mon Dieu! Vous êtes la prof? Venez m'embrasser sur la bouche, professeur.
Camionneur, chasseur d'autographes, journaliste, il est à l'aise avec tout le monde.
Mais quand il n'est pas sur un plateau de télé ou au milieu d'un bain de foule, que fait Jimmy Savile? Les tabloïds tentent bien d'en savoir un peu plus sur la personnalité préférée des Britanniques. Mais l'animateur star de la BBC, qui paraît pourtant si proche de son public, reste une énigme. Si Savile sait cultiver son jardin secret, il adore se mettre en scène devant les caméras pour vanter son côté altruiste et humaniste. Le public le découvre ainsi brancardier volontaire dans un hôpital de Leeds, vêtu d'une longue blouse blanche. Dans un autre reportage, on le voit organiser un marathon caritatif à Manchester, acclamé par la foule. Mais son plus beau fait d'armes philanthropique reste incontestablement la rénovation de Stoke Mandeville, un hôpital vieillissant voué à la fermeture, faute de financement public. En pleine crise économique, sa ville réalise l'impossible. Il récolte des millions. Il donne même de sa personne en s'improvisant chef de chantier. aux journaux du soir, il s'affiche dégoulinant de sueur, entouré de malades et de médecins qu'il adule. Ce qui ne manque pas d'attirer l'attention de la famille royale.
Le prince Charles devait venir seul, mais quand la princesse Diana est apparue, les patients étaient aux anges. Pour Jimmy Savile, qui a levé les fonds pour le nouvel hôpital, c'était un moment de triomphe.
Quand je pense que les travaux ont coûté 10 millions de livres, je me dis comment avez-vous fait pour lever 10 millions de livres en 3 ans ?
Facile, a répondu Jimmy Savile en saluant l'équipe qui l'a aidé à récolter les fonds.
En récompense de ses services rendus à la nation, Jimmy Savile récolte les honneurs. La reine le fait officier de l'ordre de l'Empire britannique. Il reçoit même les honneurs du pape en personne. Lors d'une visite dans le Yorkshire, Jean-Paul II le fait chevalier de l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Quant aux Britanniques, il lui trouve un nouveau surnom, Saint-Jimmy. À BBC, plusieurs producteurs se disent qu'il faut surfer sur cette image de bon samaritain avec une nouvelle émission. L'idée est simple, inviter des enfants à la BBC pour réaliser leur rêve le plus fou. Le 31 mai 1975, le premier épisode « Jim and Fix It », autrement dit « Jim va gérer ça pour vous », est diffusé en prime time sur BBC One. Assis dans un grand fauteuil en velours, entouré d'écoliers, l'oncle Jim accueille les téléspectateurs. Costume 3 pièces, chapeau haute forme, l'air malicieux. L'animateur a tout du personnage de Willy Wonka dans Charlie et la chocolaterie.
Mesdames et messieurs, il se trouve que j'ai passé une grande partie de ma vie à réparer toutes sortes de choses pour les gens. Donc, la BBC s'est dit, pourquoi ne pas en faire une émission à la télé, baptisée Jim Will Fix It. Ces dernières semaines, nous avons reçu près de 9000 lettres. En voici une.
Cher Jim, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais me faire voler comme Peter Pan?
Des émissions suivies chaque semaine par des millions de Britanniques, des événements caritatifs spectaculaires et des levées de fonds records, tout ce joyeux manège finit par attirer l'attention de l'establishment qui lui ouvre les portes du pouvoir. Mieux encore, Savile devient un intime du couple princier. En tant que conseiller spécial, il s'affiche publiquement aux côtés du prince Charles et de Lady Di. Il devient même leur porte-parole officieux. Il faut dire que son excentricité et son authenticité sont deux arguments de taille pour la famille royale qui voit en lui une opportunité unique, dépoussiérer son image coincée, coupée du peuple. Dans ses lettres, le prince de Galles ne cache pas son affection pour son nouvel ami.
Cher Jimmy, merci encore pour vos notes. Elles m'ont grandement aidé pour écrire mon discours. Je déplore que mon cabinet ne vous consulte pas avant chacune de mes réunions. Beaucoup de gens me demandent comment vous décrire. Êtes-vous mon conseiller, mon confident ou tout simplement mon ami? La réponse est bien sûr, tout cela à la fois. Signé, Charles, le prince de Galles.
Récompensé par la reine, auréolé par le pape, plébiscité par la famille royale, à la fin des années 70, Saint-Jimmy se sent pousser des ailes. Alors pourquoi n'irait-il pas frapper à la porte du 10 Downing Street, la résidence londonienne des premiers ministres? Une fois encore, il fait jouer ses talents hérités de ses années d'animateur télé. Et il ne lui faut que quelques mois pour se lier d'amitié avec la nouvelle locataire des lieux, Margaret Thatcher. Conquise, elle va jusqu'à l'inviter dans sa maison de campagne pour prendre le thé au coin du feu. La première ministre voit cette nouvelle amitié d'un bon œil. En s'affichant publiquement aux côtés de l'homme du peuple, la dame de fer adoucit son image tout en s'adressant à un nouvel électorat, les classes populaires. Alors, Jimmy Savile jubile. L'ancien mineur de fond qui a ses entrées à Buckingham murmure maintenant à l'oreille de la première ministre. Et il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Alors, son prochain objectif, la récompense suprême, être anobli par la reine. Dans son entreprise de séduction, il peut compter sur une alliée de taille, Margaret Thatcher donc. Et chaque année, c'est elle qui pousse son nom près de sa majesté. Mais chaque année, sa demande est mystérieusement refusée. C'est qu'à Londres, La rumeur enfle. L'animateur star de la BBC aurait-il une face cachée, un vice de forme, un dossier comme on dirait aujourd'hui? Jimmy Savile ne le sait pas encore, mais son passé est en train de refaire surface. Sensible sur France Inter. Aujourd'hui, Jimmy Savile, Shocking.
Affaire sensible, Fabrice Drouel.
Au début des années 80, Jimmy Savile reste l'animateur numéro 1 incontesté de la BBC. Mais le 11 avril 83, son image de joyeux clown philanthrope commence à se fissurer. Parce que ce jour-là, le journal The Sun dévoile dans ses colonnes, je cite, la face cachée du plus grand DJ britannique, celle d'un homme impitoyable, violent et calculateur, prêt à tout pour arriver à ses fins, y compris avec la jambe féminine. Et c'est Savile en personne qui ouvre la boîte de Pandore en accordant une longue interview au quotidien britannique.
À la BBC, on m'appelle le parrain. Personne ne cherche des noises au parrain. À l'époque, quand il y avait un élément perturbateur dans l'un de mes clubs à Leeds, je n'hésitais pas une seconde. J'envoyais mes gars pour le sortir et le tabasser sur le trottoir. Aujourd'hui, certaines des choses que j'ai faites pourraient me valoir 10 ans au trou. Vous allez me dire, comment est-ce que j'ai fait pour en arriver là, sans me faire prendre? C'est simple. J'ai disputé 107 matchs de catch et je n'ai jamais perdu mon sang-froid. J'applique la même discipline avec les femmes.
Au même moment, dans les couloirs de la BBC, une rumeur ressurgit. Derrière ses airs de Père Noël, Jimmy Savile serait-il en réalité un croque-mitaine, un pédocriminel? Car en coulisses, cela fait des années que des employés assistent à des scènes étranges. Après chaque tournage, par exemple, Savile invite des enfants et des adolescentes dans sa loge, à l'abri des regards, accompagnés d'autres hommes. Régulièrement, il est vu avec de très jeunes filles dans son camping-car, garé juste devant les locaux de la BBC. Et puis, il y a ce regard libidineux, cet humour graveleux, ces mains baladeuses en plateau. Certains s'inquiètent auprès de leurs supérieurs, mais à chaque fois, on leur répond d'un ton désinvolte « Mais c'est Jimmy, genre vous le connaissez, il est comme ça ». Fidèle à lui-même, l'ancien catcheur garde son sang-froid. Interrogé à plusieurs reprises sur ses rumeurs, il reste toujours d'un calme olympien et s'en tire à chaque fois, grâce à un subterfuge, tout en crapotant un long cigare cubain.
Dans la nuit, quand vous vous retrouvez seul face à vous-même, est-ce que vous grimacez en repensant à des choses que vous avez lues ou entendues sur vous ?
Écoutez, pas vraiment. Je suis dans le milieu du show business depuis un moment déjà. Je fais chaque semaine des émissions qui cumulent plus de 40 millions d'audience. Donc, après toutes ces années, des gens se mettent à raconter toutes sortes de choses sur vous et vous apprenez à vous protéger pour ne pas être blessé. En fait, il suffit de penser aux paroles du Christ. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est comme ça que ça se passe, bébé.
Malgré les révélations du Sun et les rumeurs de pédophilie, pédocriminalité, Jimmy Savile est missionné par la ministre de la Santé pour remettre de l'ordre à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor. Cette prison de haute sécurité renferme les pires tueurs en série du pays, comme Peter Sutcliffe, l'éventreur du Yorkshire. Un ami, déclare Savile, qui va même jusqu'à poser à ses côtés, oui, tout sourire, devant des photographes médusés. En parallèle, l'institution chargée de la protection de l'enfance le choisit pour être l'ambassadeur de sa nouvelle campagne de prévention. Objectif ? Expliquer aux enfants qu'il ne faut pas accepter les bonbons d'un inconnu. Plus étonnant encore, en 1990, Savile est anobli par la reine à Buckingham Palace. Les années passent, Savile se fait plus rare à la télé. Mais la rumeur, elle, persiste. Et quand elle se fait trop pressante, que fait l'animateur star de la BBC ? Il sort sa carte maîtresse, l'avocat George Carman. Ses clients s'appellent Elton John et Tom Cruise. Spécialisé dans les affaires de diffamation, il fait peur à toute la presse londonienne. Alors quand il apprend qu'un journal prépare une enquête sur son client, il fait tout pour étouffer l'affaire. Dans le documentaire Netflix « Jimmy Savile, A British Horror Story », Paul Koniou, l'un des rédacteurs en chef du Sunday Mirror, se souvient d'un appel de l'avocat de sa ville. C'était en 1994.
George Carman m'appelle et me dit « Au fait, Paul, Jimmy Savile est très content que vous ne publiez pas ces histoires sur lui. » Je lui ai répondu « George, en ce qui me concerne, je crois tout ce que ces deux filles ont dit sur son comportement. » Le gars est un pédophile. Et Carman a gloussé et dit « Vous pourriez bien avoir raison. »
En 2006, après 42 ans de bons et loyaux services, Jimmy Savile quitte la BBC par la grande porte. Pour ses 80 ans, il a même l'honneur d'éteindre une dernière fois les lumières du studio de Top of the Pops, l'émission qui l'a rendu célèbre. Bien. Mais quelques mois plus tard, alors qu'il coule une paisible retraite dans son penthouse de Leeds, une femme pousse les portes d'un commissariat au sud de Londres. Et voici ce qu'elle raconte aux policiers. À la fin des années 70, elle dit avoir été témoin d'une agression sexuelle au centre de redressement pour mineurs de Doncroft. Selon elle, Savile aurait gagné la confiance d'une des pensionnaires avec des cigarettes, puis l'aurait attirée dans sa Rolls-Royce pour la violer. Ce n'est pas la première fois que la police recueille ce genre de témoignages. Des dizaines de plaintes similaires ont déjà été déposées contre lui aux quatre coins du pays. Certaines remontent même aux années 60. Mais à chaque fois, elles sont restées lettres mortes. Jusqu'à cette plainte de mai 2007. Car contre toute attente, une enquête cette fois est ouverte. Et d'anciennes élèves de Doncroft sont auditionnées. Deux d'entre elles confirment le témoignage de la première. Fin 2009, après plus de deux ans d'enquête, Jimmy Savile est convoqué par la police. Fait du prince, il refuse de se déplacer au commissariat. C'est en son royaume, à l'hôpital de Stockmanville, que se déroulera l'interrogatoire. Derrière son bureau plaqué or, le vétéran des 60s se glisse dans la peau du parrain.
Pourquoi ces filles diraient ça à propos de vous ?
C'est toujours la même rengaine. Avant Noël, les gens ont besoin de fric. En temps normal, on peut les chasser de là, comme de vulgaires moucherons. C'est pour ça que j'ai chez moi, à Leeds, un groupe de hauts responsables dans la police. Je leur donne toutes ces lettres et les emmène au commissariat.
Vous avez fait part au début de cet entretien de votre politique par rapport à ce genre d'accusation.
Ma politique ? Oui ! J'ai la réputation d'être procédurier. Je n'hésite pas à traîner ces gens-là en justice. Paf ! 200 000 balles ! J'ai fait ça 5 fois. Si tu lâches l'affaire, on n'en parle plus. Si tu t'accroches, toi, ma petite demoiselle, tu finiras au tribunal comme toutes les autres.
Il est 11h42, je mets fin à l'enregistrement.
Très bien.
Faute de preuves suffisantes, l'enquête reste là et le dossier rejoint les dizaines d'autres classés sans suite. Mais 2 ans plus tard, un événement inattendu vient relancer les investigations. Le 29 octobre 2011, 2 jours avant son 85e anniversaire, Jimmy Savile meurt chez lui des suites d'une pneumonie. Il est retrouvé dans son fauteuil en cuir, un cigare encore fumant dans la main droite. Quelques jours plus tard, ses funérailles sont retransmises en direct à la télé.
Nous prions cet après-midi pour que le Seigneur fasse en sorte de réaliser le souhait le plus cher de Jimmy, une place au paradis. Jimmy lui-même, en parlant du péché, avait écrit ces mots en post-scriptum dans son autobiographie. J'espère que le Seigneur sera vraiment indulgent avec les pécheurs.
Dans les semaines qui suivent sa mort, les hommages pleuvent. La BBC a même prévu de lui dédier 2 soirées spéciales, juste avant Noël. Au même moment, 2 journalistes s'activent dans les bureaux de Newsnight, l'émission d'investigation phare de la BBC. Cela fait plus d'un an que Marion Jones et Liz McKean enquêtent sur Jimmy Savile. Tout a commencé par la découverte d'un forum en ligne où d'anciennes élèves de Duncroft racontent avoir été violées à plusieurs reprises, sans citer leur agresseur. Après des mois de recherche, les journalistes parviennent à retrouver la trace de l'une d'entre elles, Karine Ward. Sur son blog, elle se confie en détail sur ses viols, mentionnant cette fois les initiales de son agresseur, J.S. Quelques semaines après la mort de Savile, elle accepte de témoigner face caméra.
Il m'a fait la promesse que si j'acceptais de lui faire une fellation, il m'emmènerait avec mes copines au studio télé pour assister à son émission. Le chanteur Gary Glitter, l'un de ses invités, était particulièrement horrible et seulement intéressé par le fait d'obtenir le plus de sexe possible de toutes les filles. Je me souviens que je l'ai vu avec l'une de mes amies dans la loge de Jimmy Savile, qui était remplie de monde.
Jimmy Savile était là?
Ah oui, il en rigolait, il trouvait ça drôle.
Marion Jones et Liz McKean en sont convaincus. Karine Ward dit la vérité. En fouillant dans les archives de la BBC, ils retrouvent l'émission en question. Dans la foulée, ils rencontrent d'autres victimes qui acceptent de témoigner face caméra. Et toutes racontent le même mode opératoire. La séduction, le chantage, puis le viol. Le 29 novembre 2011, 2 mois jour pour jour après la mort de Savile, l'enquête de Marion Jones et de Liz McKean est programmée pour le 7 décembre. Mais le lendemain, ils reçoivent un mail lapidaire de leur rédacteur en chef qui décide brusquement de faire volte-face. « On n'a que le témoignage des femmes, c'est trop fragile », écrit-il. « Mettons ce sujet sur pause, en attendant d'en savoir plus. » Durant les fêtes de Noël, Jones et McKean assistent, impuissants, aux soirées hommages diffusées par la BBC à la gloire de sa ville. La télé publique ne veut pas toucher à son icône. Très bien, une autre chaîne le fera. Oui, les 2 journalistes contactent alors Mark Williams Thomas, un ancien policier reconverti dans le journalisme. Et le 3 octobre 2012, soit près d'un an après la mort de Jimmy Savile, l'enquête est finalement diffusée sur ITV, une chaîne privée concurrente de la BBC. Sur les plateaux télé, certains n'arrivent pas à y croire. Comment un homme ayant fait tant de bien autour de lui a-t-il pu faire autant de mal? Devant l'avalanche des témoignages, Scotland Yard ouvre une cellule entièrement dédiée à sa ville. En parallèle, elle lance l'opération U-Tree, chargée de traquer de potentiels complices. Quant à la BBC, elle se retrouve au cœur du cyclone. Le Premier ministre, David Cameron, demande des sanctions exemplaires. Avant même la conclusion des enquêtes internes, plusieurs membres de l'état-major de la BBC sont poussés à la démission, dont son grand patron, George Entwistle. Après des mois d'enquête, la police finit par identifier plus de 400 victimes âgées de 5 à 75 ans. Pendant des décennies, Savile a sévi en toute impunité dans les locaux de la BBC, dans des hôpitaux, dans des foyers, dans des églises et même dans des morgues. Et à chaque fois que quelqu'un a voulu le dénoncer, il était ignoré par les institutions. en 2011. Quelques jours avant sa mort, Jimmy Savile avait conclu sa dernière interview avec ces mots, comme un dernier pied de nez à ses détracteurs.
Je ne me suis jamais considéré comme quelqu'un d'intelligent. Rusé ? Oui. Je suis un type très rusé. Mais il vaut mieux être rusé qu'intelligent. Car même si on est intelligent, on peut faire un faux pas. Mais quand on est rusé, on ne fait jamais de faux pas.
France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel.
Aujourd'hui, le dossier de Jimmy Savile, dont nous parlons avec notre invitée Sonia Delsalle-Stolper. Bonjour.
Bonjour.
Alors, vous étiez correspondante pour le journal Libération à Londres de 1996 à 2020. Vous avez donc couvert pour ce journal le Savile Gate et ses multiples rebondissements. Nous allons y revenir. Arrêtons-nous d'abord un moment sur les années qui ont précédé le scandale. Quand vous arrivez à Londres, donc au milieu des années 90, hein, que symbolise Jimmy Savile dans la société britannique ?
C'est un peu un trésor national. C'est un personnage qui s'est... Il est en fin de carrière, mais c'est un personnage qui s'est installé dans le quotidien des Britanniques et qui est devenu une sorte d'icône incontestable, incontestée. Donc il est partout. Il est officiellement presque retraité. Et pourtant, il participe. Il est invité à des émissions, notamment satiriques. Have I Got News For You. Il continue à animer ce programme absolument phare, Top of the Pops, qui est un truc suivi par des générations et des générations de Britanniques. Et il fait même une apparition dans cette émission Loft de Big Brother sur Channel 4 en 2006. Pardon. Et donc c'est aussi une référence pour tous les jeunes présentateurs de télévision, de radio, parce qu'il a été présent pendant tant d'années qu'en fait c'est comme s'il ne pouvait pas mourir presque. Ouais. C'est une icône qui est là. Quoi. Et puis il a ce côté, en plus il a accompagné toutes ces années de doré, de l'émission. L'émergence des Rolling Stones, des Beatles, donc il est considéré comme le type qui c'est vraiment une référence et en plus il est drôle, enfin pour ceux qui aiment son humour, mais
oui, parce
il est considéré comme étant loufoque et les Britanniques aiment bien, ça les sort de leur d'une sorte de peut-être de vie quotidienne un peu enfermée, un peu compassée, un peu codée, et ce côté complètement excentrique, complètement cinglé, qui assume d'être en survêtement, en nylon, les cheveux, les dents jaunies, les cheveux décolorés, ils trouvent ça plutôt rigolo, ça les bouscule, ils aiment bien.
D'accord, l'excentricité, ok, mais on l'a entendu parler, c'est quand même un personnage vulgaire et cynique.
Absolument, mais c'est aussi ça tout le paradoxe de à quel point ce Jimmy Savile est devenu... Enfin, il a travaillé beaucoup pour la BBC, qui est quand même l'épitome de la Britishness, avec le côté correct, les présentateurs en cravate. Vous devriez porter une cravate si vous travaillez à la BBC. Et lui, il n'en a rien à faire, quoi. Et ça secoue les Britanniques. Et par ailleurs, il vient du Nord, il vient d'un milieu très populaire. Les gens du Nord au Royaume-Uni sont considérés comme étant des gens plutôt très sympas, très chaleureux, beaucoup moins compassés que justement les Anglais, oui, londoniens ou du Sud.
Et avec leur accent. Hein.
Et avec un accent à couper un accent à couper au couteau, que même les Anglais du Kent ne comprennent pas tous. En fait, c'est assez rigolo. Donc en fait, il y a un côté homme du peuple, homme près de l'auditeur qui fait que ça passe.
C'est une force, ouais. Alors, est-ce que vous avez eu vent, vous, des rumeurs de pédocriminalité qui circulaient sur lui à ce moment-là ?
Mais c'était curieux parce qu'en fait ce type, en plus, si vous le voyez physiquement, enfin il a quand même un côté un petit peu particulier, un petit peu, j'allais dire répugnant, c'est peut-être pas le terme, mais enfin il y a quand même un côté, il y a un mot anglais qui est creepy, et je ne trouve pas la traduction en français parfaite.
Non, on va l'entendre dans 10 minutes.
Ce truc un petit peu bizarre, quoi. Et en fait ces rumeurs, elles sont là depuis des années. On l'a entendu dans ce que vous avez raconté auparavant. Il y a eu des plaintes, il y a eu des articles dans les tabloïds, il y a eu tout ça, et c'est comme s'il y avait une sorte d'aveuglement collectif. On n'a pas envie, en fait, que cet homme qui a levé tellement de fonds, qui semble être l'épitome du type caritatif qui permet d'ouvrir des hôpitaux, de moderniser des hôpitaux, de s'occuper d'enfants, qui réalise des rêves d'enfants, enfin,
oui,
tout ça
on
est là,
veut pas casser
on n'a pas envie, quoi, on n'a pas envie d'y croire.
Comment vous dites ? Creepy ?
creepy.
Bah tiens, on va écouter du creepy. Un extrait du documentaire de Netflix, Jimmy Savile, A British Horror Story. Nous sommes le 28 mai 1999 sur BBC Two. Et Jimmy Savile est l'invité de l'émission Have I Got News For You.
Vous viviez vraiment dans une caravane ?
J'ai vécu 12 ans dans une caravane.
Mais que faisiez-vous dans votre caravane ?
Je sautais sur tout ce qui bougeait.
On l'avait invité dans notre émission car c'était un personnage controversé. À ce moment-là, ses interviews étaient de plus en plus bizarres et les gens commençaient à se poser des questions.
Je vais devoir kidnapper les femmes du coin et leur sauter dessus. Parce que j'habite à Glencoe. Là-bas, on vole du bétail, on enlève des femmes et on les vend.
Oui, merci du renseignement.
C'était un type vraiment flippant, mais ça ne dérangeait personne.
Vous étiez un catcheur à l'époque, c'est bien ça?
Je le suis toujours. Je suis redouté de toutes les écolières de ce pays.
Bah, tout y est, parce qu'il...
Voilà, tout y est, et on rit.
Et on rit.
Alors qu'en fait, il explique sans aucune... sans même dissimuler. Il dissimule rien, en fait. Il explique, oui, c'est comme ça que je fonctionne.
Je saute sur tout ce qui bouge.
Et ça paraît tellement énorme qu'en fait, en face, le journaliste... Et là, mais il y a eu plein d'interviews comme ça, où on sent le journaliste est un peu interdit par cette espèce d'aplomb et de manière de dire... presque de défier son interlocuteur en disant « Vas-y, essaye de m'accuser de quoi que ce soit. Essaye pour voir. Parce qu'en fait, j'ai tellement de pouvoir que ça ne marchera jamais. »
France Inter. Affaires sensibles.
Sonia Delsal-Stolper, je rappelle que vous êtes journaliste, que vous étiez correspondante pour Libé au Royaume-Uni au moment des faits. Alors, cette histoire avec sa mère, la journaliste se rend dans la maison de sa mère, à Scarborough, et apparemment ça dit des choses.
Oui, c'est une scène absolument incroyable. Alors, le journaliste en question s'appelle Louis Theroux. C'est un documentariste qui a un peu tendance à aller avec comme ça des célébrités, à pénétrer pas mal dans leur intimité. Il fait une spécialisation de ce genre de documentaire et il accompagne Saville dans la maison de sa mère, qui est morte donc en 1972, et il a gardé cette maison. Et là, il y a une scène absolument incroyable. Il ouvre la porte de la chambre de sa mère et rien n'a bougé. On est déjà au début des années 2000. Rien n'a bougé, les robes sont toujours accrochées dans la penderie. Tout est là. Et lui explique que c'était pour garder son odeur, sa présence. Et après, il y a cette rumeur qu'il a plus ou moins confirmée, sans jamais être très clair là-dessus, sur le fait qu'au moment de sa mort, il est resté 5 jours à la veiller, seul dans sa chambre. Pour être près d'elle, et il explique qu'en gros, il avait dû la partager avec plein de monde toute sa vie et qu'enfin, elle n'était qu'à lui. Il faut rappeler que c'est le dernier fils de 7 enfants. Mmh. Et c'est un enfant non désiré, ce que sa mère lui a fait toute sa vie, en fait, y compris dans des interviews, a dit tout à fait ouvertement, je ne l'ai pas voulu celui-là. Et en fait, il y a un petit peu ce côté, il a couru après la reconnaissance de sa mère, c'est elle qui l'a emmené, qui l'a accompagné quand il a été anobli par la reine, par exemple. Mmh. C'est elle qui l'a accompagné à Buckingham Palace. Et donc, clairement, elle prenait une place énorme dans sa vie. Et c'est d'ailleurs la seule femme officielle, entre guillemets, de sa vie, puisqu'on ne l'a jamais vue avec aucune fiancée, femme, épouse. Amis, compagnons, compagnes, rien du tout. Il était un solitaire, affiché.
Alors, pédocriminalité, ça paraît clair. Et les rumeurs de nécrophilie, rumeurs ou faits ?
Dans l'enquête qui a pris des années et qui s'est poursuivie après sa mort longuement, il y a eu des révélations comme quoi il avait effectivement commis des actes sexuels dans des morgues, des hôpitaux. Dans l'hôpital, il avait son appartement, de Stockville. Enfin, il avait sa pièce à lui, on lui avait mis à ses dispositions. Il était chez lui, dans ses couloirs,
Dans son royaume, comme il dit.
Il allait où il voulait, comme il voulait.
Venons-en maintenant à l'enquête, alors, d'ITV d'octobre, IT, octobre 2012, celle qui révèle au grand jour le vrai visage de sa ville. Alors, quelle est l'atmosphère qui règne au Royaume-Uni dans les jours qui suivent la diffusion de cette enquête ?
C'est la sidération absolue. C'est une sorte de... C'est vraiment... marrant, parce que je m'en souviens vraiment très précisément, c'était un moment... il y avait plus moyen de nier toutes ces rumeurs. On comprenait là que finalement, c'était vrai. Quoi. Mmh. C'était vrai. Et en fait, je pense, au-delà de l'horreur des faits qu'on a, qui en plus sont, à ce moment-là, ne sont révélés qu'une partie des faits. C'est vraiment le début, le sommet de l'iceberg qui, à ce moment-là, est révélé. Mais en fait, je pense qu'il y a en plus ce sentiment vertigineux de se dire on a laissé faire pendant toutes ces années. On savait, et tout. Toutes les institutions, de la BBC à Downing Street, en passant par la famille royale ou par la police, quoi. On a laissé faire et on n'a pas empêché ces drames, quoi.
Et ça s'est passé partout, hein, pas forcément au Royaume-Uni. Alors, comment s'est défendu le patron de la BBC? Il s'appelle George Entwistle, c'est ça, hein?
C'est ça. Pas très bien, en fait, pour être tout à fait honnête. En fait, quand ces révélations explosent, le patron de la BBC, qui, le pauvre, finalement, a été nommé quelques semaines avant, donc il n'a pas de chance, quelque part, se retrouve à se défendre d'une manière absolument lamentable. Et le pire, c'est que la même émission Newsnight diffuse à ce moment-là une autre enquête sur un membre du cabinet du Premier ministre accusé de pédophilie. Sauf que le Guardian révèle qu'en fait, l'enquête a été mal faite, que les sources n'ont pas été vérifiées et que c'est faux, ces accusations sont fausses. Alors ça décrédibilise la Newsnight et le patron de la BBC. Et c'est un propre journaliste de la BBC pendant le programme phare du matin, de la matinale BBC Radio 4, qui en gros assassine en direct le directeur de la BBC en lui disant « mais c'est pas possible ». Et il démissionne quelques jours.
Et son sort est scellé, évidemment.
Ouais, complètement.
Est-ce qu'on peut dire que l'affaire Jimmy Savile a permis de libérer la parole des victimes, des femmes, au Royaume-Uni, et qu'en d'autres termes, c'est un MeToo avant MeToo?
Ah ben oui, hein, je pense qu'on peut le dire. Je sais pas si le terme MeToo est là, c'est un scandale. Enfin, on vient d'avoir l'abbé Pierre en France, hein, c'est un scandale avec ces espèces d'icônes qui tombent brutalement de leur piédestal. Et oui, au Royaume-Uni, ça a été un cataclysme et ça a ouvert des vannes. Enfin, il y a un certain nombre de célébrités qui ont été poursuivies. Enfin, Gary Glitter, qui était d'ailleurs des potes, entre guillemets, de
sa ville.
Hein, on le dit, oui. Et qui ont été poursuivis, condamnés, morts en prison d'ailleurs, pour certains. Donc il y a eu un déluge de plaintes, de soudain, d'où la décision d'ouvrir un département précis de la police pour enquêter sur tous ces crimes, quoi.
Ah oui, quand même, il y a un changement. Il nous reste que 30 secondes, je voulais vous poser la question sur ce qu'on a su plus avec l'enquête sur son mode opératoire. On peut résumer en quelques secondes?
Il utilisait sa gloire et son pouvoir d'image pour faire ce qu'il voulait. Donc il allait dans les hôpitaux pour un truc caritatif et en même temps il touchait les enfants, les blessés, les malades, etc. Donc en fait, le mode opératoire, c'était sa loge à la BBC et sa caravane et son pouvoir.
Bien, écoutez, pour ceux qui voudraient prolonger cette histoire, en savoir plus, je leur recommande l'excellente série documentaire, riche en archives de l'époque, intitulée Jimmy Savile, un cauchemar britannique, série réalisée par Rowan Deacon, est disponible sur Netflix. Sonia Stolper, merci infiniment.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Et affaires sensibles aujourd'hui, l'affaire Jimmy Savile, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Élise Christophe.